Alors, je m'appelle Sonia Wider-Atherton, donc j'ai un nom de famille un peu compliqué où j'ai le nom de ma mère et le nom de mon père. Et je suis musicienne et plus particulièrement violoncelliste. Un peu pas compliqué, mais j'étais une adolescente qui s'est organisée un monde très vite, qui était le monde du son. Parce que autour de moi, c'était assez mouvementé, très passionnel, beaucoup de il y avait beaucoup de montées vocales. Ma mère est quelqu'un qui parle très fort, qui s'énerve très facilement. Mon père parlait moins, mais il y avait quelque chose que je sentais de pas reposant pour moi, pas rassurant, voilà. Et donc je sentais une sorte de danger à cet endroit-là. Donc c'est comme si je m'étais créé un monde à moi qui était où la musique était très présente, mais avant la musique, même les sons. Des sons, des timbres de voix que je cherchais qui me rassuraient, des sons que je collectais partout. Puis après, c'est devenu la musique, un xylophone. Et puis ça me protégeait. Et je vivais très, très entre deux univers, comme ça. L'univers extérieur et mon univers que je m'inventais d'une manière très, très active.
Et par rapport à vos camarades de classe, l'entourage, des gens de votre âge, ça se passait comment ?
Ben justement, à cause ou grâce à ça, je ne sais pas, j'avais un peu du mal à faire fonctionner les deux mondes. Et comme j'étais quand même très accrochée à cet univers de musique, les autres me disaient que j'étais maso parce que je me levais très tôt pour travailler. Mais pour moi, ce n'était pas du travail, c'était être dans mon univers. Donc je me levais à 5h30 du matin, je faisais de la musique avant de partir. Donc à l'école, j'étais crevée, ce dont ils parlaient ne m'intéressait pas trop, je ne me sentais pas faire partie de ce monde-là, mais ça venait de moi aussi.
Alors, comment avez-vous décidé de faire du violoncelle ?
Et alors justement, dans mes recherches de son, j'ai fait pas mal d'instruments. Donc je vous ai dit xylophone, un peu de piano, puis je voulais un instrument à cordes, j'ai fait de la guitare, puis c'était toujours pas ça. Je voulais un instrument à archer. D'ailleurs, c'est ma sœur qui m'a rappelé que j'exprimais vraiment que je voulais un son que je puisse faire durer très longtemps. Donc voilà, j'avais vraiment une idée de ce que je voulais. Et mes parents ne sont pas musiciens. Et un jour, j'ai mis un disque sans savoir ce que j'allais mettre, et c'était du violoncelle. Et là, ça m'a happée. Et je me souviens de cette scène parce qu'on jouait aux osselets avec deux, trois copains de classe. Et j'ai mis le disque et je me suis rassise. Et là, le son du violoncelle m'a happée. Et je me suis arrêtée de jouer. Et j'étais complètement hypnotisée. Et je me souviens de leur réaction en disant « Bah quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu joues pas ?» Et c'est comme si eux, ils n'avaient pas entendu la même chose que moi. Ils continuaient. Et moi, j'étais saisie. Et donc, encore une fois, sortie du moment que je vivais avec mes copains, pour aller dans un autre endroit.
Voilà. Et là, vous avez quel âge ?
Là, j'avais 9 ans.
Ouais. Et alors, à partir de là, vous faites la demande à vos parents de faire des cours ? Comment ça se passe ?
Je voulais en faire. Alors, ils n'ont pas dit non, mais ils m'ont dit « tu continues l'école normale », ils ne voulaient pas les horaires adaptés, tout ça. Donc, c'est pour ça aussi que je me levais très tôt. Très, très tôt.
Et vous répétiez tous les matins ?
Et je répétais tous les matins avant de partir à 8h à l'école.
Et alors, on va faire un saut dans le temps parce qu'on va aller plus loin. Est-ce que votre adolescence a eu un impact sur votre parcours artistique ?
Ben, forcément, je pense que pour tout le monde, l'adolescence, c'est... Je pense que ça m'a donné cette capacité d'inventer mon monde, m'a donné beaucoup de force. Mais après, ce qui a été plus difficile, c'est de joindre le monde, disons, plus caché, plus... pas souterrain, mais vraiment... l'autre univers est l'univers de la vie de tous les jours, ou l'univers qu'on vit tous, quoi, qu'on sort, on voit les gens, on parle à... Et j'ai mis beaucoup d'années à faire cohabiter les deux. Parce qu'après, c'était tout le temps comme si je disais « oui, je suis avec vous », et puis hop, je tournais le dos et je repartais dans mon univers. J'allais, venais tout le temps. Et puis maintenant, j'ai quand même des années de plus, et j'ai l'impression que les deux univers se donnent la main. Je continue à faire ça, parce que par exemple, si ce projet Odyssée, il vient de ce monde-là, de mon monde de l'adolescence, en fait. Je raconte beaucoup de choses... Par exemple, le cri, c'est certainement lié à des cris que j'ai entendus, les batailles avec la tempête, la douceur de la berceuse, tout ça, c'est des choses qui viennent de l'adolescence. Je pense que l'adolescence, c'est un des moments les plus difficiles de la vie, vraiment. C'est très difficile, l'adolescence. Mais en même temps, si on accepte ça et qu'on se dit pas « je devrais être heureux, je devrais savoir ce que je veux faire, on ne doit rien du tout. Il faut rien, il faut juste le traverser et se dire que c'est la nourriture pour la suite. »
Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de ce projet Odyssée et peut-être aussi du triptyque Chant juif et Chant d'Est auquel on le relie d'ailleurs ?
C'est tout lié à des immersions dans des univers à travers la musique dans Chant juif, parce que j'avais fait un travail de recherche de Chant juif pour un film de Chantal Akerman. Et donc moi je ne savais pas grand-chose de mes origines, ma mère n'en parlait pas, qu'elle avait fui la Roumanie, je savais. Elle est juive, je savais, mais rien de plus, quoi, elle n'en parlait pas. Et à travers cette musique, quand j'ai commencé à la jouer, à l'écouter, à l'aimer, c'était incroyable parce que je commençais un chant et j'avais l'impression que je pouvais le finir par cœur, quoi, comme s'il avait fait partie de moi, mais je ne le savais pas. Donc à travers la musique, j'ai découvert des choses et je me suis dit, tiens, mais c'est là, ça. Et je ne le savais pas. Du coup, ça m'a permis de lui parler. Et là, elle a commencé à raconter qu'est-ce que ça avait été que sa jeunesse, le fait qu'elle n'avait pas le droit d'aller à l'école parce qu'elle était juive, que... Elle avait quelqu'un qui venait lui faire des cours à la maison parce que voilà, l'école était fermée aux Juifs. Et la fuite et son arrivée au Liban, enfin, elle a commencé à parler. Donc à travers la musique, j'ai découvert tout un univers et qui m'a permis d'aller poser des questions. Voilà. Et après, Chant d'Est, c'est plus sur l'identité et plein de langues. Parce que je pense que la langue, c'est très important, parce que c'est avec la langue qu'on raconte tout ce qu'on ressent, tout ce qui fait mal, tout ce qu'on cherche à comprendre. Plus on parle, mieux on se sent. Donc c'est un travail sur les langues, la Middle Europa, où il y a dans un tout petit territoire, grand comme un pays, il y a je ne sais combien de langues, et surtout des gens, par exemple, qui ont été élevés dans une langue, qui ont été à l'école où il fallait parler une autre langue, parce que c'était la langue qu'on imposait. Ensuite, l'âge adulte, ils en parlaient encore une autre, et ils étaient perdus. Et du coup, c'est à travers la langue qu'ils allaient mieux. Et alors, c'est vrai pour les écrivains, et c'est vrai pour les musiciens. Ils cherchaient la chaleur de l'enfance, parce qu'on passe notre vie à chercher, quand même. Il y a une parabole, justement, talmudique que j'adore. C'est ça. C'est une parabole, c'est comme une histoire. Quand on naît, il y a un petit ange qui descend et qui, avec sa baguette, tape sur la lèvre supérieure. D'où le petit creux qu'on a tous sur la lèvre supérieure. Et que ce petit coup de baguette provoque l'oubli pour qu'on puisse vivre en n'ayant pas trop un sac lourd. On oublie et on dit « vie maintenant ». Et toute la vie, les choses reviennent et on se souvient, mais on n'est plus libre parce que les souvenirs viennent quand on est prêt à les avoir, en fait. Donc, ils ne vous écrasent pas. Donc, tous ces projets, pour moi, ils sont liés à au petit coup de baguette de l'ange.
Et alors, donc justement, l'Odyssée, elle repose sur quoi ?
C'est comme une odyssée personnelle, c'est-à-dire que je me suis mise seule en imaginant que j'avais comme orchestre pas des instruments, pas une flûte, pas un violon, pas une clarinette, mais quoi ? La mer, la tempête, le vent, quoi d'autre ? Des vagues, des coups de tonnerre, c'est un orchestre extraordinaire.
Et alors, il se découpe en plusieurs séquences ?
Voilà, des aventures comme Ulysse, sauf que je rencontre pas le cyclope. Quoique, j'aurais pu. Mais donc, il y en a 13. Et je leur ai donné des noms selon ce que je ressentais. Donc, il y a 13 aventures.
Et inspiré d'histoires pour certaines, inspiré de votre adolescence pour d'autres.
Certainement. Alors, je ne le dis pas. Là, je le dis parce que je suis entourée d'adolescents. Donc, à eux, je peux le dire. Mais aux adultes, je ne le dis pas. Mon histoire aurait été différente si ma mère n'avait pas fui, si le français, ce n'était pas sa troisième ou quatrième langue, si... Elle n'avait pas un mélange de cultures d'Europe de l'Est et arabe, puisqu'elle a vécu à Beyrouth, parce que c'est le seul pays qui les a accueillis à ce moment-là. Ensuite, il y a eu la rencontre avec mon père, qui vient de mourir il y a quelques semaines, mais il était protestant américain. Et le fait qu'ils se soient trouvés comme ça, chacun passionné par l'histoire de l'autre, chacun voulait en fait oublier son histoire. Mon père, je crois qu'il étouffait dans son milieu. Et le fait de rentrer dans la culture et la personnalité de ma mère lui faisait un bien fou. Et ma mère voulait oublier, elle, le côté tellement chaotique et violent de sa vie à elle, oublier le judaïsme, oublier tout ça, et rentrer plutôt dans l'univers de mon père. Et finalement, ils ont fait des voyages l'un vers l'autre, tout en restant quand même l'un très protestant et l'autre très juive. mais en ayant fait des voyages extraordinaires de l'un vers l'autre.
Et ça a donné quoi comme transmission pour vous ?
C'est difficile parce que le fait de venir de deux cultures tellement différentes, ça apprend le grand écart. Hein. Et on se dit, mais ouais, moi je suis quoi là-dedans ? Où sont mes racines ? Et voilà, il y a un jeu subtil. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'on prend des deux et on construit quelque chose qui est à vous et rien qu'à vous. Et ça, c'est intéressant. C'est le moment, je trouve, où on ne subit pas des choses qui vous ont été... Plus on les comprend, plus on en fait quelque chose à soi.
Est-ce que vous auriez un conseil ou un message à adresser aux adolescents ?
D'essayer de chasser la peur. Je pense que c'est une chose avec laquelle on naît, et c'est normal parce que c'est un drôle de truc, la vie. Et se dire que chaque âge de la vie a ses moments extraordinaires et ses moments difficiles. Et voilà, et d'essayer de ne pas avoir peur et de se dire que chaque vie est différente. Et que l'idée, c'est de se sentir le plus libre possible. Parce que tout est fait dans la société, et probablement c'est nécessaire, mais pour dicter aux gens comment il faut être, pour faire sentir qu'on devrait faire ci, qu'à cet âge-là, normalement, il faut faire ça. Ben non, en fait. C'est comme on peut, quand on peut, mais c'est soi. Et ça devient un allié quand on se dit, ben, c'est parce que c'est mon choix, je l'ai voulu comme ça, et alors là, ça décuple les forces. Et que le fait de se tromper, de prendre un mauvais chemin, n'est pas grave, c'est même nécessaire.
Merci beaucoup, merci.